tous allez rire, et ce n'est pas une blague. Le Riroscope, le nouveau rendez-vous de l'humour en Bretagne du 22 au 26 octobre.
5 soirées exceptionnelles, 5 artistes, 5 ambiances.
Selig, Jeff Panaclock, Guillaume, Marie Saint-Filtre et Laura Lone viennent vous offrir des scènes d'anthologie.
Un événement Diogène Productions et le Scope Lagnon.
Bonjour à toutes et à tous, on est au cœur du Scope où se déroule en ce moment le festival Riroscope, le tout premier grand rendez-vous de l'humour dans les Côtes d'Armor. Alors bien sûr, on voit des artistes sur scène, on entend des rires, on vit aussi l'ambiance, mais si tout se passe bien, c'est aussi grâce à ceux qu'on ne voit pas, ceux qui travaillent dans l'ombre, dans les coulisses. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Dan, le régisseur du Scope. Bonjour Dan.
Bonjour tout le monde.
Alors pour commencer, on entend souvent parler de régie, de régisseur, mais concrètement c'est quoi votre métier ici au Scope ?
C'est un métier, on peut résumer par chef de chantier, c'est un travail un peu d'interface entre l'organisateur, les équipes techniques, l'artiste et plusieurs prestataires qui interviennent dans le processus d'organisation.
Donc chef de chantier, on peut même dire chef d'orchestre.
Chef d'orchestre, c'est un petit peu prétentieux ou pas tout à fait adapté. On est dans une partie qui est technique, qui est logistique.
Voilà. D'accord. Alors pendant un festival comme le Riroscope, à quoi ressemble une de vos journées ? Il y a des balances à faire, avec ou sans artiste ?
Ça commence tôt parce que on commence d'abord par du montage pendant plusieurs heures.
D'accord.
Ensuite, effectivement, c'est le moment des réglages, donc les balances,
ouais.
Entre autres, le focus lumière, et puis l'arrivée de l'artiste à ce moment-là, l'accueil du public, l'ouverture des portes, le spectacle, et à nouveau, le démontage.
D'accord. Alors, sans nous dire de nom, c'est plus compliqué avec certains ? Ou dans l'ensemble, c'est...
En fait, on travaille entre techniciens, donc on répond à des demandes, alors elles sont effectivement plus conséquentes pour certains artistes parce que le spectacle est plus élaboré, ce sera plutôt de l'ordre du côté technique, c'est pas en termes humains, normalement on parle tous le même langage, et même quand un artiste est peu connu, notre façon de répondre sera la même,
ouais.
C'est de faire quelque chose de bien quoi.
Il y a certaines exigences ?
Oui, il y a des exigences, il y a des spécificités, je dirais plutôt, que des exigences, qui sont souvent en lien avec le contenu du spectacle, après, qui peuvent être évidemment en lien aussi avec le tempérament de l'artiste ou la situation de la tournée, les difficultés de la tournée. Une tournée, c'est aussi quelque chose d'important à aborder dans notre métier, c'est que les gens sont tous les jours sur la route, et donc effectivement il y a des demandes qui sur le papier peuvent paraître un petit peu compliquées ou difficiles à appréhender, à comprendre, mais en fait quand on est sur la route on se rend compte qu'effectivement ce métier de transhumance permanent amène effectivement à des demandes comme celles que l'on a des fois.
Ouais. Le Scope, c'est une nouvelle salle, toute neuve, inaugurée en juin. Est-ce qu'il y a des choses qui changent dans votre métier quand vous travaillez dans une salle comme celle-là ?
Oui, parce que d'abord, c'est une salle qui est donc récente, avec techniquement des technologies récentes, c'est intéressant.
Ouais.
Elle a été pensée, elle a été réfléchie pour répondre à certaines de nos demandes. Donc c'est plaisant. Il y a une volonté, en tout cas, de l'équipe du Scope, de faire en sorte de pouvoir accueillir les spectacles de la meilleure manière. Donc c'est plaisant parce que on sent un véritable investissement, une envie de répondre effectivement à nos demandes. Donc c'est une salle plaisante à travailler en tout cas.
Vous voyez des choses qui peuvent être améliorées, vous, en tant que régisseur ?
Oui, il y aura des choses à améliorer, ça se fera dans le temps, mais pour l'instant, à ce jour, il n'y a rien de rédhibitoire, il n'y a rien qui nous arrête. Je pense que le travail a été fait en concertation avec des professionnels, ce qui est intéressant. Évidemment, il y a quelques imperfections, mais rien qui puisse amener à des doutes. Voilà, donc les équipes du SCOP sont beaucoup à l'écoute, comme je le disais, et on résout tranquillement tous ces points-là au fur et à mesure. C'est une collaboration assez fructueuse, je trouve.
Ça vous est déjà arrivé d'avoir un couac pendant un spectacle ?
Ça arrive, oui. Oui, ça arrive malheureusement.
Problème de son, de lumière
Oui, des problèmes de coupure, voilà. Mais je dirais que c'est de moins en moins fréquent. Ça arrive de moins en moins souvent. Bon, j'ai fait ce métier pendant de nombreuses années. Et on a quand même réduit beaucoup les impondérables de ce côté-là. Donc l'électricité notamment, quelque chose qu'on essaye de gérer au mieux. Il y a énormément de moyens de détection.
Ouais.
Bon, les équipements sont beaucoup mieux suivis qu'à une époque. Bon, après, le risque zéro n'existe pas. Je touche du bois, même s'il n'y en a pas. Voilà, on n'est jamais à l'abri de certaines choses, mais... Bon, on essaie quand même de travailler. Les études sont très poussées, en fait, sur ce qu'on a à faire. On essaie vraiment d'aller au bout des choses. Et ce qui présente un risque, on ne le fait pas. Voilà, ça fait partie de notre éthique, de notre déontologie.
Est-ce qu'il y a une chose que le public ne soupçonne pas forcément et qui est pourtant essentielle dans votre métier ?
Sur le plan technique, il y a des choses effectivement qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que nous, on travaille, on fait beaucoup, beaucoup d'accroches. Il y a énormément de choses qui viennent pas du sol, mais dans l'air. Voilà, donc on travaille avec beaucoup, beaucoup de moteurs.
Ouais.
Il y a beaucoup de mouvements qui sont amenés à être effectués dans la préparation. Beaucoup de choses qui sont levées. Donc c'est beaucoup de travail. Ça, c'est un domaine qu'on ne soupçonne pas. Mais voilà, ça représente beaucoup de travail. Quelque chose peut-être que si le public ne voit pas, c'est le nombre de personnes à travailler. Parce qu'on voit, quand on vient dans la salle, on voit quelques techniciens qui sont autour des consoles. Mais il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde derrière. Il y a beaucoup de monde également au montage. Il y a beaucoup de gens qui interviennent pour monter toute la machinerie. Un spectacle comme aujourd'hui, donc au SCOP, ça va représenter... pas loin de 30 personnes qui sont intervenues dans différents domaines. Et les gens qui seront au spectacle en verront peut-être 3, 4, 5. Voilà, il y a énormément de gens qui interviennent, notamment pendant la phase de montage et la phase de démontage, mais aussi pendant le spectacle,
ils
sont en coulisses. Voilà.
Alors, vous travaillez dans le spectacle vivant depuis combien d'années ?
Eh bien, 35 ans.
35. C'est un secteur quand même exigeant et des horaires, vous avez dit, un petit peu fou quand même, puisque vous êtes très tôt le matin et très tard le soir. Qu'est-ce qui vous motive encore après tout ça ?
Ce qui me motive, le spectacle, le plaisir des spectateurs, le plaisir des artistes. Voilà. Moi, voir que d'abord que l'artiste est satisfait, que les gens qui ont travaillé à monter le spectacle sont contents, c'est quelque chose qui me satisfait beaucoup, qui m'amène beaucoup d'énergie. Et voir le public applaudir, voir le public sortir d'une salle heureux, ça c'est vraiment quelque chose qui me donne beaucoup, beaucoup beaucoup de satisfaction, beaucoup de plaisir et beaucoup d'énergie.
Eh ben, merci beaucoup Dan pour ce moment à nous faire découvrir les coulisses.
Merci également.
Ah, si t'es trop content d'être avec nous, t'as tenté là ? Oh putain les débiles ! Alors tu veux aller faire caca ? Arrête, je me branlais. Et là je veux qu'on se cache rien, qu'on ait aucun petit secret entre nous, d'accord ? Oui ? Très fort ! Tu es d'accord ? Oui, allez, monte-moi tes couilles. Et Anthony, c'est une vidéo de moi qui soulève 80 kilos avec 11 gags. Eric, le justicier de la Bretagne.
Bonsoir, votre réaction par rapport au spectacle de Jeff Panatlock ?
Ah bah on a beaucoup ri, on a très ri, ouais, c'est un très beau spectacle.
Très très bien, pareil, nouveau personnage au top, toujours adoré Jackie, c'était génial. Et puis bah, Jeff, ça a toujours été un régal, et puis Jean-Marc aussi.
Bah on se détend, on rigole un bon coup. Hein, ouais.
Vous l'aviez déjà vu avant ?
Ah bah à la télé pour d'autres spectacles.
Ouais, mais vous l'avez jamais en vrai.
Ouais. Ah non, en vrai c'est la première fois.
Ouais, c'est la première fois. Ouais. Donc ravi.
Ah bah ravi, on passe un bon moment. Hein.
C'était vraiment chouette, on a bien rigolé. On a passé un bon moment.
Excellent.
Quel fan à Clock, parce que je l'adore.
Il est fan.
Mais je vois que tu es fan parce que tu repars avec Jean-Marc.
Ouais.
Non, t'as pas mis Jean-Marc dans la boîte quand même.
Peut-être.
C'est le vrai. Hein.
Et tu vas le faire parler?
Oui.
Pour lui faire dire des bêtises?
Bah oui.
Ça dépend.
Mais pas autant de gros mots.
Non, pas autant.
Non, non, interdit les gros mots. Enfin,
bah j'ai déjà des marionnettes.
Ouais, il a déjà des marionnettes.
D'accord, c'est vrai qu'il en dit beaucoup de gros mots hein, quand même. Hein.
Oui, beaucoup.
C'était super sympa. On a bien rigolé, une belle performance. C'est la première fois que je voyais un ventriloque. Et bon, je l'avais déjà vu à la télé, je le connais, mais franchement, techniquement, tout ça, j'étais assez loin, mais c'était énorme.
Et puis, il chante aussi, finalement. Hein.
Ouais, c'est une découverte. Bon, je l'avais jamais vu sur scène chanter, mais franchement, c'était sympa.
Très bien, on a bien rigolé. Oui, super. Rien à dire. Il y avait de l'émotion aussi. C'était émouvant. Il passait des messages à chaque fois. Non, très bien. On a bien... C'est sympa.
Et les enfants aussi, vous avez aimé ?
J'ai découvert des personnages que je ne connaissais pas. Et puis oui, il dit qu'il sait faire que ça, mais franchement, c'est un sacré talent.
Ouais. Et quel personnage que vous connaissiez pas ?
Les deux, le couple des anciens, là. Ouais. Je le trouvais très sympa. Ouais. Ouais, j'ai bien aimé. Donc à revoir peut-être à l'occasion. Mais ouais. Je conseille en tout cas de venir le voir.
Ben, très bien.
Très bien, très bien, très bien.
On a passé une bonne soirée, on a bien ri, ça détend, ça fait du bien. Voilà.
On a eu besoin.
Génial. Oui, franchement, génial. Super. Oui. À refaire.
C'est la première fois que vous le voyez en vrai ?
Oui, en vrai, oui, tout à fait. Tout à fait, la première fois.
Et donc, tu repars avec Jean-Marc.
Oui, c'est ça.
Et alors, tu vas le faire parler comme lui ou pas ?
Oui.
Oui ?
Oui.
D'accord.
Essayez.
Quand elle était petite, elle voulait déjà attraper la télé dès qu'elle voyait quand elle était bébé. C'était déjà une grande fan toute petite, c'était son rêve de venir le voir.
Donc le rêve est réalisé ?
Oui.
Voilà. Par contre, faut pas lui faire dire autant de gros mots. Hein.
Ah non, hein. faut être sérieuse. Il n'y a que lui qui a le droit.
Merci, bonne soirée.
Bonne soirée.
Vous allez rire et ce n'est pas une blague. Le Riroscope, le nouveau rendez-vous de l'humour en Bretagne du 22 au 26 octobre.
5 soirées exceptionnelles, 5 artistes, 5 ambiances.
Selig, Jeff Panaclock, Guillaume, Marie Saint-Filtre et Laura Lone viennent vous offrir des scènes d'anthologie.
Un événement Diogène Productions et le Scope Lannion.
On est toujours donc au Scope à l'occasion du Riroscope, premier festival d'humour en Bretagne, avec Olivier Cochon, directeur de Diogène Productions, qui œuvre dans le Grand Ouest. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Alors le Scope a ouvert ses portes en juin 2025 et depuis il semble qu'il occupe déjà une place centrale dans la scène culturelle de la région. C'est un équipement à peu près à 4500 places debout. Et qui a visiblement répondu à une forte demande, notamment hein, face à la concurrence des grandes métropoles que sont Rennes ou Brest. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, ce que représente le Scope pour l'Agnon et la Bretagne dans son ensemble, pour Diogène ? Est-ce que l'Agnon Trégor Communauté aussi vous a demandé des conseils ?
Alors, ce que ça représente pour nous, ça représente grosso modo une vingtaine de spectacles à l'année à peu près sur un volume de 120 à 130 spectacles.
D'accord.
Qu'on fait sur une année. Alors, c'est pas une question de chiffres tellement, c'est plutôt pour nous une opportunité assez forte parce qu'en fait, on avait un vrai manque sur la région d'un équipement de cette taille précisément.
Ouais.
On n'a pas besoin d'aréna supplémentaire comme le Zénith de Nantes ou le Liberté à Rennes ou l'Aréna de Brest. On avait besoin d'un équipement de cette taille-là. C'était vraiment
D'accord.
manquant. Et j'allais dire d'autant plus manquant sur les Côtes d'Armor. Peu importe, j'allais dire l'endroit, mais globalement, ouais. moi, de mon point de vue, qui monte les tournées sur le Grand Ouest, stratégiquement parlant, j'avais besoin d'un point d'ancrage sur ces jauges-là.
Parce qu'aujourd'hui, il y a Saint-Brieuc, l'Hermione, on n'est pas encore sur la même jauge.
Ah bah non, en fait, le Scope fait deux fois la taille de Hermione.
D'accord,
en
vrai, ouais.
À 200 places près, puisque Hermione fait 1100 places assises, quand le Scope en fait 2000.
Ouais.
Donc, et puis en debout, c'est même plus que ça, puisqu'en debout, on fait 2400 places, 2400 places à Hermione, et pour 4500 ici. Donc,
d'accord,
on parle pas du tout de la même taille. Ouais. Par exemple, les spectacles que je vais amener à Lannion, pour la plupart, ne rentrent pas à Hermione. Donc,
d'accord.
Il n'y a même pas de concurrence,
ouais.
en réalité.
D'accord.
C'est juste qu'il manquait cet équipement-là, en fait, de cette taille-là. Donc voilà, et puis après, est-ce que l'Agnon nous a aidés ? Alors, demander des conseils, disons que c'est plutôt sur en amont, sur l'aspect du chantier, où effectivement, moi depuis le départ, j'étais assez convaincu, ça fait très longtemps que je suis convaincu par ce projet-là.
Ouais.
Enfin, j'étais convaincu qu'il y avait un potentiel. Donc très tôt, on a échangé avec la direction du SCOPE, surtout quand le directeur Vincent a été nommé, on a échangé alors que c'était encore un chantier, on a fait je sais pas combien de visites du chantier, où on a amené nous notre expertise en termes de besoins, en termes d'aspects techniques, en termes d'emplacement des équipements, en disant bah voilà, si vous voulez que ça marche, et si moi j'ai pour me donner des arguments pour convaincre les artistes de venir, il va falloir répondre à un peu, à modifier peut-être un peu ça, à travailler là-dessus. Et du coup, ça a été très constructif. Et en final, ben, ça marche, puisque du coup, on se rend compte que maintenant, on peut amener des artistes.
C'est ça, on voit que la salle rencontre un véritable succès. Par exemple, le concert de Calogero s'est soldé en un temps record. Il y a une deuxième date qui a été ajoutée. Comment on réussit à attirer des artistes comme ça, comme Calogero, qui a l'habitude quand même des grosses scènes?
On boit beaucoup de coups avec les agents. Ça, c'est mon travail. Non, blague à part, ça fait partie du jeu, mais pas que. En fait, en réalité, ça fait 25 ans à peu près que je suis en interlocution avec les agents des artistes.
Ouais.
Donc je me dis que sur la durée, au bout d'un moment, je me dis qu'ils me font un peu confiance. En fait, ça, c'est un peu un travail de longue haleine. En fait, c'est dès que moi, ce qui est compliqué, c'est de rajouter une nouvelle ville ou un nouvel équipement dans la tête des agents et des artistes. C'est quelque chose de très compliqué.
D'accord.
Et donc, parce qu'ils ont leur schéma de tournée répétitif tous les ans. Et quand, par exemple, je sais pas, Calogero va faire telle tournée, les autres artistes concurrents vont regarder la tournée et ils vont la dupliquer.
D'accord.
Et installer une nouvelle ville ou une nouvelle salle dans une tournée, ça demande beaucoup de temps. Donc il a fallu qu'en amont, alors que c'était encore un chantier, que je commence à semer mes petites graines en disant « Vous allez voir, le truc, quand ça va ouvrir, ça va être vraiment carton. » Et donc je mettais ma caution un peu personnelle et professionnelle là-dedans en disant « Vous allez voir, faites-moi confiance, ça va être carton. » Et donc, c'est un travail comme ça, de long terme, jusqu'à les convaincre. Bon, il y a l'aspect financier, évidemment, mais pas que, quoi. Il y a d'autres salles où j'aurais pu honorer les contrats de Calogero, et je suis content qu'ils aient choisi de venir ici, quoi.
Ouais. À part la programmation musicale, donc un autre grand événement semble avoir bien pris, c'est le festival donc Riroscope, actuellement donc dédié à l'humour. Vous en êtes le créateur, cette fois-ci, donc vous n'êtes pas que loueur de la salle, là cette fois-ci vous êtes le créateur. Quel est l'objectif de ce festival et pourquoi avoir choisi du coup Lannion pour l'installer ?
Alors en fait, ça fait longtemps que je... On a déjà un festival d'humour qui s'appelle Les Feux de l'Humour, qui est à Brest, qui est plus petit.
Ouais.
Ça fait longtemps que... Et puis il a 20 ans, le festival, il va avoir 20 ans. Ça fait longtemps que je réfléchissais à ancrer sur la région un festival de plus grande taille, un truc plus costaud en termes de rayonnement, en termes de capacité d'artiste, en termes... Voilà. Et j'avais pas la salle.
D'accord.
Donc tant que j'avais pas la salle, de toute façon, ça servait à rien. Bon, voilà. Quand j'ai visité... la salle avec le grain en place, je me suis dit ok, c'est bon, sur le papier en tout cas j'ai la salle. Ensuite j'en ai parlé à la direction et à l'aglo en disant mais est-ce que ça vous intéresserait pas qu'on crée une double dynamique, c'est-à-dire à la fois on utilise la dynamique d'ouverture de ce nouveau lieu tout en étant moi dès le départ convaincu que ça allait marcher.
Oui, bien sûr,
je suis tellement convaincu que le SCOPE allait fonctionner, donc j'étais sûr de moi. Et on associe la dynamique d'ouverture du lieu avec la création d'un nouvel événement. D'où le nom, l'idée c'était aussi d'associer vraiment le nom de la salle dans le nom de l'événement, Riroscope. Voilà, ça s'est fait de manière assez intuitive. Quand j'ai vu le lieu, je me suis dit ok, il y a un truc. Et puis après il a fallu convaincre, ça n'a pas été long, la direction de la salle en disant moi je veux bien y aller, mais allons-y ensemble à ce moment-là.
Oui.
Parce que je trouvais beaucoup plus vertueux de le faire en coproduction entre la salle et Diogène, plutôt que d'être dans une location de salle. Parce que là, on crée un événement, du coup, la programmation, elle est faite conjointement avec le directeur de la salle, on regarde des vidéos, ça nous fait marrer, ça nous fait pas marrer. Bon, il y a quelque chose de beaucoup plus co-construit qu'une location de salle pure, quoi.
Et donc, ça s'est fait autour du spectacle de Jeff Panatlop, qui était déjà annoncé. Donc, comment vous avez convaincu les artistes rapidement, du coup, enfin, les agents des artistes rapidement?
C'est exactement ça. En fait, on avait lancé Jeff Panaclock comme ça, en date isolée, en location de salle. C'était comme on a pu faire d'autres, les Calogero, Véronique Sanson. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'opportunité de caler Laura Lone sur le dimanche, qui aurait dû être une date isolée aussi.
Ouais.
Et là, je me suis dit, bon, alors, j'ai cette idée de festival dans la tête. J'ai un artiste le jeudi, j'ai une tête d'affiche le dimanche, j'en ai deux têtes d'affiche. Bon, allez, j'ai mes deux têtes d'affiche. Allez, remplissons les trous avec une belle programmation au milieu, et je pense que là, je tiens quelque chose d'assez costaud. En fait, on est parti d'un... Ouais, c'était un hasard que ces deux artistes-là se collent, et c'est là qu'on a décidé d'implanter, du coup, le festival sur cette semaine-là, en se disant, faisons le pari. Moi, je pense que pendant les vacances d'octobre, ça peut marcher. Et puis, on s'est pas trompé.
C'est le deuxième jour, on parle de 5000 billets déjà vendus pour cette première édition.
On est plus à 5002 là.
Plus 5002. Est-ce que vous attendiez un tel succès pour une première?
Je l'espérais. Après, j'espérais que ça allait marcher. Comme moi, encore une fois, j'étais convaincu que le public allait être au rendez-vous. On avait quand même enchaîné deux Calogero et un Véronique Sanson en trois jours qui était complet. Je me suis dit, ok, là quand même, on a un potentiel. Manifestement, la salle répond à une demande. On avait un doute sur l'humour, je savais pas. Bon, puis en fait, au final, voilà. Bon, moi, je m'étais dit, si on fait 4000, 4005, déjà, on positionne l'événement quasiment comme le plus gros événement d'humour de la région.
Ouais.
Bon, au final, on va faire presque 1000 de plus, peut-être probablement plus, puisqu'il nous reste encore 3 jours. Je vais pas dire que je m'y attendais, parce que c'est au-delà de ce qu'on avait imaginé,
ouais, en réalité. C'est quelque chose que vous souhaitez instaurer sur du long terme ? Est-ce qu'on peut dire que... Oui, donc voilà. Ça veut dire que l'édition 2026, c'est déjà prête ?
Elle n'est pas prête, mais on avait déjà un peu anticipé le sujet, parce que c'est maintenant qu'il faut caler les artistes pendant un an.
Ouais.
On a des options assez costauds posées, on a même des choses confirmées depuis ce midi.
D'accord.
Donc je pense qu'on va... Il me manque une confirme sur un des jours pour annoncer la prog totale.
Ah oui, déjà ?
Ouais.
Ah oui, d'accord. Est-ce qu'on peut avoir un petit scoop sur...
Bah non, parce qu'il n'y a pas mon coproducteur Vincent Perronnet qui est présent. Mais très vite, on a besoin de débriefer quand même 2-3 trucs sur la partie organisationnelle.
D'accord.
Là, c'est là où nos directeurs techniques auront leur mot à dire. Et voilà, parce que je ne voudrais pas qu'ils découvrent la programmation en lisant les médias. Je voudrais avoir leur aval technique avant.
C'est sûr. Et d'autres artistes sont déjà prévus pour la saison 2026-2027 ?
Ah oui, on en a à 26-27... Oui, on en a pas mal. On en a une dizaine là de
calés.
Alors je les ai presque plus en tête. On a Michael Gregorio qui arrive en janvier, Julien Clerc, on a Verino, on a
Danny Boone aussi.
Danny Boone aussi. On en a un paquet, mais là j'avoue que je me perds un peu dans les dates. Il faudrait aller sur le site de Diogène pour
ça. Non mais c'est bien, on se dit pour Lannion, parce qu'on n'avait pas l'habitude forcément d'avoir ces artistes-là qui venaient dans la commune.
Alors, il m'est arrivé un truc hier soir, je vous disais, ça fait 25 ans que je fais ça. Hier soir, c'est la première fois de ma vie que ça arrive. Il y a des gens qui sont venus me demander si c'était moi, Olivier, de Diogène Productions, et qui sont venus me remercier d'amener des spectacles à Lannion. Voilà, donc c'est la première fois que ça m'arrive, donc je suis très content, ça me touche beaucoup. Je me dis que du coup, ça répond à une demande, un besoin, je sais pas, mais en tout cas ça fait plaisir aux gens. Donc,
nous on l'a vu hier hein, quand on a fait les interviews, à chaque fois on disait on est content d'avoir une salle de spectacle à Lannion.
Ouais, puis c'est une super belle salle, magnifique.
Merci beaucoup Olivier.
Mais merci à vous.
Vous allez rire, et ce n'est pas une blague. Le Riroscope, le nouveau rendez-vous de l'humour en Bretagne du 22 au 26 octobre.
5 soirées exceptionnelles, 5 artistes, 5 ambiances.
Selig, Jeff Panaclock, Guillaume, Marie Saint-Filtre et Laura Lone viennent vous offrir des scènes d'anthologie.
Un événement Diogène Productions et le Scope Lannion.